7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, tout ce qui vous préoccupe en cette période d'examen, comment gérer son stress pendant les révisions, mais pendant aussi les épreuves. Attention, le stress n'est pas forcément toxique, il est même nécessaire parfois pour se mettre au travail et puis réaliser accessoirement que l'on est dans la dernière ligne droite des révisions. Encore faut-il faire cohabiter le stress avec une certaine sérénité qui apporte la confiance en soi, les idées positives. Et le jour J, alors, comment lire les énoncés des sujets sans avoir un brouillard de panique sur sa copie? Autant de sujets que nous allons justement aborder avec vous, Sophie de Tarlet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Journaliste spécialisée en éducation au groupe L'Étudiant, magazine papier et bien sûr le site internet l'étudiant.fr. Alors ce qui est assez émouvant, c'est qu'on a pris la suite de l'émission Priorité Santé, là dans le studio et ici les Moulineaux de RFI, et on a croisé, entre autres, bien sûr les co-découvreurs du virus Ebola, le professeur, le grand professeur Delfrécy, également spécialiste du sida, et il nous a il nous a fait une confidence,
oui,
hein, Sophie, qu'il rêve encore la nuit qu'il a rate son bac. Donc voilà,
ça, c'est qu'on va le dire en plus. Et tout le monde va le savoir.
C'est quelque chose qui marque, hein, quand même, les concours, les examens.
Ah bah souvent, quand je me pose des questions, j'interview des célébrités, je leur demande toujours alors le bac, et ils me disent, ils savent exactement, même 50 ans après, leur note du bac. C'est assez drôle.
Le bac. Et bien sûr, on parlera des examens, des concours en tout genre, de tout ce qui, effectivement, peut vous stresser en ce moment. Au fil des années, c'est vrai aussi que la méthodologie pour étudier a pris de plus en plus d'ampleur dans la presse. Est-ce que c'est parce que les jeunes ont de moins en moins de méthodes pour réviser?
Non, parce qu'on s'est aperçu que c'était très important. Pendant longtemps, on s'est dit, il suffit d'apprendre et voilà, ça suffit. Et puis, en réalité, on a voulu, il y a des chercheurs qui sont penchés sur la question, des spécialistes de la mémoire en particulier. Je rends hommage à Alain Liori, qui a fait beaucoup d'émissions, y compris ici, je pense, et qui est décédé au mois de mai, spécialiste de la mémoire. Et donc tout le monde finalement s'est intéressé à ce sujet, comment on apprend, comment on retient, comment on réussit. Et ça passionne tout le monde.
Et l'importance du mental, surtout.
Et oui,
aussi.
Surtout. Et puis on s'est beaucoup penché sur la question pour le sport. Et donc on s'est aperçu que finalement ce sont des règles qui valaient aussi pour tout ce qui est concours plus intellectuel.
On a beau tout trouver sur Internet, le stress est toujours le même. Il n'y a pas de vaccin contre le stress.
Maintenant, c'est comme au théâtre finalement. Il y a aussi un bon stress.
Chez vous, les voisins, on dit quoi? Vous êtes au centre de l'émission, évidemment. Appelez-nous tout de suite pour nous parler de vos révisions, de vos astuces pour être serein et efficace. Toutes vos questions également au 33 1 84 22 71 71. Frédéric Ojardias à Séoul nous parlera également de ce que vivent les jeunes Coréens en période d'examen et de concours. Le vaccin contre le stress aussi, là, plutôt entre méditation et soutien collectif. Et puis, il y a les superstitions un peu loufoques que nous découvrirons tout à l'heure, histoire de rigoler un peu. Allez, on va faire vraiment baisser la pression. Aujourd'hui, vous êtes bien chez 7 milliards de voisins. Il suffit d'ailleurs pour le moment de mémoriser juste un seul numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Quelques petits confidences sur les réseaux sociaux. Il y a les superstitieux, en effet, prospères à Cotonou. Chez moi, mes parents me faisaient laper une poudre magique qui a finalement marché. Bon, Yannick à Brazzaville, au Congo Brazza. Pour gérer le stress, il suffit de faire le Eya Eya, c'est-à-dire advienne que pourra. Il faut pas, c'est du lingala. Il faut pas trop forcer sur les révisions, juste quelques feuilletages et après tout, si on a bien travaillé avant, ça ira. Et puis dans le cas contraire, donc Eya Eya. Vous retenez bien, hein, Sophie.
Oui, mais advienne que pourra, c'est une bonne méthode aussi.
Une première de la classe, Maram à Maroua, dans le nord du Cameroun. C'est facile de gérer le stress, nous dit Maram. Moi, par exemple, à l'approche de l'examen, je me contente juste de corriger les épreuves antérieures. Je participe à des groupes d'études dans des matières qui me sont difficiles. Je dors tôt pour me réveiller tôt et je ne révise pas de peur d'être surmenée. Je considère que finalement le jour de l'examen, c'est un jour ordinaire. Je m'apprête à être en salle juste 30 minutes avant le début des épreuves et c'est comme ça que mon stress passe tout seul et que je réussis toujours.
Oh là là, c'est merveilleux ça.
Non mais elle s'y prend à l'avance.
Oui, elle s'y prend
c'est
à
ça
l'avance.
Le secret. Hein
ouais, tout à fait.
Même zénitude pour Carole à Kinshasa en RDC. Pour ne pas stresser, il ne faut pas considérer les examens comme extraordinaires puisque de toute façon, ils ne le sont pas. Vous avez forcément déjà affronté plus que ça. Oui, je pense que peut-être vous voulez parler de la guerre par exemple. Bien sûr, on peut se dire qu'il y a plus grave.
Oui, hein tout à fait. Il faut relativiser les choses.
Ouais, mais pas facile.
Ouais,
quand
pas
même.
Facile.
Parce
c'est
que forcément,
quand même un enjeu.
Mais oui, il y a un enjeu. Al, qui est à Bamako, au Mali. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été stressée à l'approche d'un examen ou un concours. Suis-je anormale? Y aurait-il que des frimeurs aujourd'hui?
Ouais, là, je suis un petit peu épatée parce que c'est quand même, qu'il y a quand même des moments où ce sont des enjeux importants. Le bac, c'est vrai que c'est le premier examen. Donc finalement, c'est le premier enjeu, le premier stress. Et c'est normal d'être stressé. Le fait d'être complètement détendu le jour J, ça me semble un petit peu surprenant.
Les étudiants stressent tout autant à l'université parce que parfois le rattrapage est compliqué. On perd une année, etc. Donc l'enjeu est aussi important.
Oui, après, il y a d'autres concours. Concours de médecine, des concours comme ça, le concours d'avocat, des choses comme ça qui peuvent engager une vie entière. Donc là aussi, il y a un énorme stress.
Oumar à Dakar, lui, on l'aime beaucoup. L'année passée, nous dit Oumar, j'ai suivi vos conseils chez 7 milliards. Et Dieu merci, j'ai réussi mon bac. Et bien surtout, un grand bravo à vous, Oumar. C'est vous le héros dans l'histoire. 33-1, 84-22, 71-71. Comment gérer le stress avant et pendant les examens? Alors, le mauvais stress, d'abord, il y a certes, mauvais stress, Sophie de Tarlet.
Oui, ça me fait penser à un livre qui a un énorme succès en ce moment, qui parle de l'intestin. Et l'intestin, je pense que ça parlera à tous ceux qui sont stressés. Parce qu'en général, c'est le premier symptôme, on a mal au ventre en fait, on est angoissé, on a des problèmes de digestion. Hein. Et c'est vrai que c'est tout ce qui est intestinal finalement est complètement relié au cerveau. Donc bien sûr, donc ça, on peut appeler ça un mauvais stress.
Mais on peut dire que le stress en amont des examens, par exemple, peut aller jusqu'à démotiver, paralyser pendant les révisions.
Oui, parce qu'on peut être tellement stressé que finalement on se sent abattu et on n'arrive plus à rien faire. On ne sait plus. C'est comme si il nous arrive un grand malheur. Alors je pense à un pays en guerre, on perd quelqu'un de proche. Souvent, on est prostré, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit, à se lever le matin. Et là, ça peut arriver aussi pour un examen parce qu'on se dit finalement on n'y arrivera jamais. Et là, mon conseil, c'est d'abord de s'occuper constamment. D'aller dans l'action. Lorsque vous êtes concentré à faire quelque chose, imaginez vous êtes en train de faire des travaux chez vous, à monter un mur dans votre maison. Vos soucis s'envolent parce que évidemment vous êtes concentré à la construction de ce mur. Et pendant 2 heures, vous allez être concentré, vous allez regarder les matériaux, etc. Vous allez plus du tout penser à vos soucis.
Vous conseillez pas de faire de la maçonnerie pendant la révision.
C'est la même
quand
chose
même.
Pour les examens. Si vous mettez au travail, si vraiment vous mettez au travail tout simplement, vous êtes occupé constamment, finalement votre stress va fortement diminuer. Donc ça, c'est vraiment c'est la première chose à faire et vous allez voir ça marche.
Quel est le rôle de l'entourage pour diminuer la pression?
C'est vrai que moi je vois beaucoup de parents qui sont plus stressés que les enfants, ou du moins les enfants le montrent moins. Mais les parents sont très angoissés, parfois reportent l'angoisse sur leurs enfants. Finalement, c'est un peu l'honneur de la famille qui est en jeu. Lorsque, je vais pas me mentir, j'ai aussi des enfants. Lorsque le premier enfant passe son bac, on se dit c'est les voisins, c'est la famille.
On réussit ses examens.
Bah oui, parce que c'est pour ça que le bac est si important, parce que souvent c'est ce qu'on annonce à la famille. Alors le bac, tout le monde est là. Alors elle a eu son bac, et c'est un peu le résultat de toute une éducation, de 18 ans d'investissement quand même. Et là, on se dit, là, c'est l'instant de vérité. Est-ce qu'elle l'a avec mention, pas mention? Et si elle échoue, il échoue, c'est l'honneur qui est en jeu.
Mais les parents, la famille, sait qu'elle doit motiver sans stresser. La marge de manœuvre est très étroite.
Si vous êtes parent déjà, pour que votre enfant ait suffisamment confiance en lui, la chose à faire, c'est lorsqu'il fait quelque chose et qu'il échoue, ne pas le gronder, ne pas l'engueuler, ne pas lui dire c'est mal, etc. Parce que la deuxième chose qu'il fera, c'est qu'il ne tentera plus rien, parce qu'il aura peur. Donc s'il échoue, c'est comme quelqu'un qui fait de la cuisine, s'il rate un gâteau, si vous l'engueulez, il va plus jamais faire de cuisine. Là c'est pareil. Donc s'il échoue, ne pas une interro par exemple ou un contrôle, ne pas le rabrouer constamment parce que finalement ça va le paralyser.
D'accord, mais on voit ces enfants qui révisent peu, on est à un mois et demi par exemple des épreuves. épreuves, que ce soit des examens à l'université d'ailleurs, ou parce qu'on peut être encore un grand enfant à l'université, surtout les toutes
Bien
premières
sûr.
Années, ou pour le bac, on fait quoi quand on est parent?
Déjà,
il faut quand même remettre un petit coup de stress,
sûr.
Non?
Il faut être présent déjà. Hein, parfois, il faut. Il y a des parents qui sont pas là, donc le jeune se sent un petit peu abandonné et va finalement va se mettre à regarder la télé,
cette
aller
présence
sur
là,
internet,
elle sert à quoi,
etc.
Les parents ne sont pas censés aider dans les révisions à ce stade-là.
Non, mais c'est le regard extérieur qui est important. C'est un peu le principe de l'open space dans un bureau. Tout le monde vous regarde finalement, donc vous pouvez pas tout d'un coup vous mettre à jouer aux cartes ou à faire autre chose ou à écouter de la musique. Les gens vous regardent, donc vous êtes poussé à travailler. C'est pour ça que les jeunes vont souvent en bibliothèque, parce qu'il y a le regard extérieur qui fait que vous allez travailler. Et si votre mère est là constamment en train de passer devant vous, vous allez vous dire, il faut que je me mette au travail. Si elle vous dit, attends là, la télé, là, ça fait déjà une heure, tu arrêtes tout de suite, tu te mets au travail, vous allez vous mettre à travailler. Donc l'entourage, le fait d'être entouré de la famille est très 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 important.
On vous rappelle le numéro de téléphone, les voisins, les voisines, 33 1 84 22 71 71. Comment gérer son stress, le tenir à distance pendant les révisions, pendant les épreuves. Un voisin béninois, Renaud à Paracou, nous dit, moi, avant d'aller composer, j'écoutais ma musique préférée, je dansais même pour faire évacuer le stress, et ça a toujours marché d'ailleurs. Voilà un petit programme de révision très zen, concocté cette fois-ci par le voisin Romain Dubrac.
Your city, don't let me be in exile. I said, talk to me, a man without an arm, and I'm cut off from the creature, from the city of your body. Won't you talk to me?
C'est de la chanson pour les révisions d'examen. Chris Monson, canadienne à Talk, chez 7 milliards de voisins. Comment gérer son stress à l'approche des examens, pendant les épreuves également? 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Astrid qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Astrid.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins.
Astrid, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes étudiante. Sophie de Tarlet vous écoute. Vous êtes un petit peu, beaucoup même, anxieuse à l'approche d'examen, je crois.
Oui, en ce moment, je suis hyper stressée. Mmh. Parce que je passe mon examen professionnel en juillet.
Mmh.
Pour devenir secrétaire juridique.
Oui.
Et j'aimerais savoir comment gérer mon stress, parce que j'en perds même la petite, hein. Et j'ai peur de pas y arriver.
Ah oui, vous mangez beaucoup moins là?
Oui.
Mais ces épreuves ont lieu mi-juillet, c'est bien cela pour réussir cet examen et devenir secrétaire juridique?
Oui, mi-juillet.
Qu'est-ce qui vous stresse tout particulièrement, Astrid?
Pardon?
Qu'est-ce qui vous stresse tout particulièrement?
C'est l'approche de l'examen, en fait, parce que j'ai 2 ans de modules à réviser. Ouais. Du coup, ça fait un peu trop. C'est trop de papaye, d'ailleurs.
Sophie de Tarlé.
Bah, moi, ce que je vous conseille, face à une échéance comme celle-là, qui finalement enclenche, votre carrière finalement va en dépendre. C'est pour ça que vous êtes stressée. D'abord de faire un planning. Parce que là, vous vous sentez un petit peu envahi par l'angoisse de pas y arriver devant l'ampleur de la tâche. 2 ans de révision, c'est énorme. Donc, commencez par voir le temps qui vous reste. Là, vous avez le mois de juin, un peu du mois de juillet. Donc, séparez chaque jour et dites-vous ce que vous allez faire, demain, après-demain, etc. Chaque jour, et faites un planning extrêmement précis de vos révisions et affichez-les au-dessus de votre bureau, ou dans votre chambre, ou chez vous, et vous allez visualiser comme ça ce que vous allez faire, et ça va déjà vous rassurer. Vous allez vous dire, finalement, si je m'y prends bien, j'ai le temps de réviser. Une fois que vous avez fait ce planning, au quotidien, pour vous motiver, justement, pour vous sortir de cette paralysie, faites des listes de ce qu'il faut faire. Chaque matin, vous vous dites, la journée va s'écouler, j'ai ça à faire. En suivant, évidemment, ce planning. Et à chaque fois que vous aurez réalisé quelque chose, vous cochez, ce qu'on appelle un peu, les Américains appellent des to-do list. Et ça marche aussi au niveau professionnel. Moi, je fais ça quotidiennement dans mon travail.
Alors, évidemment, il faut que les listes soient pas trop ambitieuses, hein. Il faut que ce soit réaliste.
C'est au quotidien, finalement. Une journée, elle fait 12 heures. Enfin, je veux dire, c'est, elle est pas ça, une journée ne fait pas 8 jours.
Ça contribue à avoir le sentiment qu'on avance.
Oui, d'abord ça va vous rassurer. Vous vous dites finalement à la fin de la journée, vous allez voir votre liste et vous allez voir finalement j'ai coché ça. Finalement j'ai pas mal avancé.
Astrid, est-ce que vous le faites déjà ça, des plannings ou pas? Vous n'avez pas encore commencé?
Et des listes, surtout.
Et les listes.
J'ai élaboré un planning
dans la vie. Oui. Mais un planning global. Vous faites pas des listes.
Ce qui me sauve, en fait, c'est parce que j'adore la lecture et du coup, ça me motive, quoi.
Oui, mais une chose est de lire, mais là c'est pour un examen, donc c'est pas tout à fait la même chose. Il va falloir que vous vous entraîniez à l'épreuve de l'examen, parce que parfois, moi, j'adore lire aussi, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup de mémoire. Et une fois que j'ai fini mon livre, je retiens absolument rien de ce que j'ai lu. J'ai pris juste du plaisir à le lire. Donc là, il va falloir que vous entraîniez à l'épreuve avec des annales. Là, vous avez plus tellement le temps finalement d'apprendre, de faire des fiches, etc. Il faut que vous preniez les annales des épreuves, de l'examen des années précédentes et que vous entraîniez dans le temps horaire de l'épreuve. C'est-à-dire si c'est une épreuve de 2 heures, par exemple, de français, où il y a une rédaction, un résumé de texte, par exemple, avec un arrêt de la Cour de cassation à commenter, il faut que vous entraîniez à ce type d'examen. Vous prenez un chrono et vous faites l'examen en temps réel. Et comme vous aurez l'habitude finalement de l'épreuve, le jour de l'examen, vous serez plus du tout effrayé par cette épreuve, puisque vous l'aurez fait déjà plusieurs fois.
Quand on a passé comme ça une journée où on a fait une matinée d'épreuves en temps réel, plus réviser une autre matière, etc. À la fin de la journée, on n'a plus la boule dans le ventre.
On a abattu du boulot, on voit sa liste, on se dit, finalement, les 10 choses que j'avais prévues, finalement, j'en ai fait 7 ou 8, c'est déjà pas mal. Ça nous rassure, et finalement, on peut recommencer la deuxième journée avec un sentiment du travail accompli. Et c'est ça qui va faire baisser votre stress. C'est uniquement ça.
Astrid, on vous souhaite vraiment bonne chance. Surtout, vous nous tiendrez au courant si vous réussissez votre examen.
Merci.
Hein, ça va aller, je pense.
Ça va aller.
Oui, merci.
Vous avez l'air motivée, en tout cas.
Oui. Merci.
Très bonne journée à Libreville. Je vous lis le message de Bishop qui est à Bujumbura, au Burundi. Bishop nous dit, pour réussir ses examens, il faut prendre le temps de se reposer, de faire du sport. Il faut s'organiser effectivement en manière d'horaire, nous dit Bishop. Évidemment, d'abord, je voudrais dire qu'on pense très fort à tous les étudiants qui sont victimes de la violence et de la peur à l'heure actuelle au Burundi et qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre aux examens. Et puis, bien sûr, le sport, c'est-à-dire à un moment donné... Oui, vous êtes.
Le sport, bien sûr, mais je veux dire par là que là, si vous êtes en période, vous avez, imaginons, un mois pour réviser,
10 jours, 20 jours.
Vous n'allez pas commencer à vous entraîner pour le marathon. Donc, c'est pas le moment. Donc, par contre, vous pouvez en effet. pour faire toujours pour faire chuter le stress et vous sentir mieux physiquement, parce que c'est aussi
une petite demi-heure.
On va en parler de
l'importance du sport et de faire autre chose également. Vous restez avec nous, Sophie de Tarlet. Nous continuons de faire baisser la pression, mais pas les révisions. Il vous reste, 30 jours, 20 jours, 8 jours. Vous êtes dans la dernière ligne droite, étudiants, lycéens. Nous pensons à vous, nos stress, mes puissances maximum. Vos témoignages tout de suite au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. L'émission est consacrée au stress avant et pendant les examens. Pas de méthode infaillible, pas de recette pour tous, mais des pistes pour mieux comprendre également son propre fonctionnement, mieux s'organiser, se motiver aussi pour éviter que le stress ne vous submerge. Sophie de Tarlet, vous êtes avec nous dans l'émission, journaliste spécialisée au magazine L'Étudiant et sur le site l'étudiant.fr. Et l'émission, c'est bien sûr pour les étudiants en galère. Vos témoignages, vos questions, 33 1 84 22 71 71. Nous partons pour la Corée du Sud, retrouver un voisin qui vous veut du bien. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. C'est vrai que vous vivez dans un pays depuis plusieurs années où les examens sont rois. Il y a bien sûr le redoutable concours d'entrée à l'université auquel les enfants d'ailleurs se préparent dès le plus jeune âge, jusqu'au très compétitif concours d'entrée dans la fonction publique et d'ailleurs même dans les grandes entreprises comme Samsung. 100 000 candidats en avril dernier, c'est bien ça hein, Frédéric? Ça semble énorme.
Oui, tous les zéros sont là.
Autant d'épreuves indispensables pour obtenir un travail, pour obtenir un statut social. Alors comment dans ce pays on gère le stress ?
Oui Emmanuel, en fait il n'y a pas vraiment de méthode miracle. J'ai posé la question à de nombreux étudiants autour de moi et en fait ce qui en ressort c'est que les Sud-Coréens tentent surtout de se serrer les coudes en période de révision. Ils étudient jusque tard dans la nuit mais très souvent en groupe et puis pour décompresser un peu, eh bien ils se contentent souvent de prendre un snack entre amis ou d'aller faire une partie de basket ou de jeux vidéo. Certains tentent le yoga ou la méditation zen. Pour les adultes, il existe par exemple des centres bouddhistes qui permettent d'alterner entre les révisions, bien sûr dans le silence, et puis les séances de méditation. Et ce qui est frappant aussi ici, c'est le soutien vraiment affiché par l'entourage pendant les examens. Le jour du bac, par exemple, les lycéens plus jeunes viennent encourager les candidats autour des centres d'examen en affichant des pancartes, en poussant des cris. Beaucoup de parents, eux, vont dans les temples ou les églises pour prier. Et en fait, le stress semble souvent être vu comme quelque chose de nécessaire. Une étudiante m'a répondu, par exemple, j'aime bien le stress parce que cela m'aide à me concentrer.
Ouais, je dirais la même chose d'ailleurs, ouais. Quand je prépare l'émission le matin. C'est nécessaire peut-être, mais en même temps, un stress trop élevé, Frédéric Ojardias, peut avoir des conséquences quand même très graves, d'autant plus en Corée du Sud.
Oui, exactement. Ici, le suicide, c'est la première cause de mortalité des 10-30 ans. Et selon un sondage l'année dernière, 40% des jeunes Sud-Coréens affirment que la pression scolaire trop forte provoque chez eux des pensées suicidaires et dépressives. La Corée du Sud affiche le triste record d'avoir le taux de suicide le plus élevé des pays de l'OCDE. Et le gouvernement offre même à présent des applications pour smartphones de surveillance parentale qui s'installent donc sur le smartphone des enfants et qui envoient une alerte quand des mots clés en lien avec le suicide sont détectés.
Et du côté de la prévention, pour mieux gérer ce stress, les Coréens consultent-ils par exemple un psychologue à l'approche des examens ?
Très peu en fait. Même si dans les écoles il y a un système qui permet aux enfants vulnérables de consulter un psychologue, de telles visites font encore l'objet de beaucoup de stigmatisation en Corée. Et en fait ce sont les parents vraiment qui infligent une pression très élevée à leurs enfants. Et par exemple la pharmacopée chinoise est très populaire ici en période d'examen. Mais en fait ces médicaments traditionnels que l'on donne aux enfants ont surtout pour but de les aider à se concentrer et à résister à la fatigue, mais pas vraiment à combattre le stress.
Alors les Coréens ont-ils des méthodes particulière de révision, Frédéric?
Oui, alors tous les examens ici sont essentiellement basés sur l'apprentissage par cœur et vraiment sur la mémorisation brute. Et pour les préparer, les Coréens ont recours en masse aux cours du soir et aux académies privées qui sont vraiment omniprésentes. Il y en a vraiment littéralement à chaque coin de rue ici. Et la méthode préférée pour réviser ensemble, il semble être de se réunir en groupe, parfois de façon informelle. Il existe par exemple de nombreuses salles d'études privées de plein de tailles différentes que l'on loue à l'heure ou à la journée pour étudier ensemble.
Il existe des superstitions liées à la révision d'examen.
Oui, Emmanuel, en fait, il y en a beaucoup et c'est assez amusant. Par exemple, on donne du gâteau de riz aux candidats pour leur porter bonheur parce que on dit que le riz colle, ce qui est un homonyme en coréen de réussir son examen. Et puis aussi une superstition ancienne et étonnante que l'on voit encore dans les films. Quand un candidat a fini d'apprendre par cœur une liste de vocabulaire ou de citations, eh bien, il en fait une petite boulette et il la mange pour se convaincre qu'il l'a bien digéré. Alors, mais je vous rassure, aujourd'hui, je connais personne ici qui ne mange ses cahiers d'école.
Petite recette de cuisine en période de révision. Vous avalez vos fiches.
Se faire coller en français, c'est l'inverse.
Exactement. Se faire coller. Alors là, effectivement, ça sera pas le riz qui colle pour nous. En tout cas, merci infiniment, Frédéric Ojardias, en direct de Séoul. Réaction, Sophie de Tarlet?
Eh ben, moi, c'est ce qui m'a interpellée, c'est tout ce qui est travail en groupe. Parce que moi, comme je disais précédemment, j'en suis convaincue, il faut absolument pas que le jeune reste seul face à ses révisions. Et le travail en groupe, on le voit en Corée du Sud, c'est ce qui est plébiscité, mais aussi en France, énormément de jeunes, même s'il y a Internet aujourd'hui, finalement, on a accès à Internet de son ordinateur, beaucoup de jeunes se retrouvent en bibliothèque et les bibliothèques font ça le comble. Et c'est l'importance du travail en groupe.
Voilà, ça peut être un ensemble physiquement.
C'est ensemble,
ça veut pas dire travailler exactement ensemble.
Non, pas forcément.
C'est aux côtés les uns des autres.
Aux côtés, vraiment d'être ensemble. Et ça, c'est très, très important.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, comment gérer le stress avant et pendant les examens? 33 1 84 22 71 71. Bonjour Alioune.
Bonjour Emmanuel.
Alioune, vous êtes à Tivaouane, pas très loin de Thiès, au Sénégal. Vous avez 20 ans et vous êtes candidat au bac. C'est la première fois que vous passez le bac. Vous êtes stressé?
Alors actuellement, je vais vous dire que je ne suis pas un peu stressé, mais aussi j'ai l'appui. Parce qu'en ce moment, nous sommes à l'approche, ou bien à la vie, des anticipés de la philosophie qui se tiendra le 19 juin 2015.
Oui.
Bon, ici au Sénégal, les élèves ont du mal à gérer la situation des baccalauréats à l'approche des examens et des concours parce que beaucoup d'élèves ont du mal à gérer cette situation parce que les examens approchent. Certains élèves ont du mal à manger convenablement ou bien à boire ou bien à jouer parce qu'ils disent qu'à tout moment, le bac approche.
Oui.
Il y a certains élèves qui passent tout leur temps à apprendre des leçons en se fermant dans leur chambre, en faisant des exercices, mais une fois arrivés à l'examen, ils échouent massivement. Bon, de ce fait, parfois certains parents d'élèves exigent à leurs enfants d'apprendre leurs leçons convenablement, mais aussi d'aller jouer un peu dans la rue, d'aller se balader dans la rue, de jouer au football, ou de suivre la télé, ou d'écouter les chroniques, pour gagner un peu la stress. Parce qu'actuellement, en ce moment, même je vous parle, la stress a gagné de plus en plus du terrain parce que nous sommes à l'approche, à la veille des anticipés de philosophie. Tous les élèves passent pour le temps à réviser la philosophie en disant que la philosophie.
Ah oui, mais ça,
la philosophie. Mais encore une fois de plus, non, mais je ne pense pas que ça, c'est une très bonne méthode pour vaincre la philosophie ou bien pour avoir une très bonne note à l'issue du baccalauréat parce que de passer tout, d'apprendre beaucoup et ne pas rien comprendre.
Mais vous, Alioune, oui, j'ai bien compris que vous ne vous jouez pas la carte d'être enfermé dans une pièce toute la journée. Votre maman, par exemple, vous aide à vous détendre un petit peu de temps en temps, à mieux gérer votre stress?
Oui, parce que tout à l'heure, même avant, elle m'a appelé en me disant, est-ce que vous apprenez vos leçons? Je lui ai dit, oui, j'ai appris, mais après, elle m'a dit, après avoir appris tes leçons, oui, tu vas un peu te balader dans la rue. Parce que j'ai vécu l'expérience, lorsque je faisais, lorsque j'ai préparé mon brevet, je m'entraînais à tout moment dans ma chambre, en train d'apprendre mes leçons, en train de faire les exercices. Mais une fois arrivé à l'examen, j'ai échoué dès les premiers tours.
Ah oui. Donc après, vous avez dû repasser votre brevet. Et vous étiez un petit peu plus zen la deuxième fois. Alioune, on vous souhaite vraiment bon courage. Sophie de Tarlet, peut-être un petit conseil pour Alioune.
Oui, il y a tout. Là, c'est un problème. C'est une petite. Je pense que il vous faudrait peut-être une préparation pour le mental, pour renforcer votre mental, puisqu'apparemment vous aviez travaillé et c'est le jour J où finalement vous êtes un peu écroulé. Donc là, j'ai une petite méthode, si je puis me permettre, Emmanuel.
Vous êtes là pour ça, Sophie.
Voilà. C'est utiliser les principes de la visualisation mentale. Donc, c'est utilisé par de nombreux sportifs avant une compétition. qui est un peu comme le bac finalement. Donc là, plusieurs jours avant l'examen, vous prenez 5 minutes, vous fermez les yeux et vous imaginez aller à l'épreuve du bac. Vous imaginez que vous êtes le matin du bac, vous vous levez, vous allez à l'examen, vous prenez votre trousse, votre cartable, etc. Vous découvrez les sujets. Toute cette ce jour-là, vous l'imaginez comme si c'était vraiment vrai. Et vous faites cet exercice tous les matins pendant 5-6 jours jusqu'à l'épreuve. Et ça, c'est assez magique comme méthode, c'est-à-dire le jour de l'épreuve, c'est comme si vous aviez vécu l'expérience en vrai, plein de fois, et finalement vous allez être beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé. Et c'est exactement comme un pilote de course avant une compétition qui va imaginer la course et la piste du circuit dans sa tête avant de conduire la voiture. Et pareil pour un skieur qui va imaginer la piste avant de chausser ses skis avant une compétition. Donc je vous conseille vraiment la visualisation mentale. C'est une des forces de l'esprit la plus puissante qu'on ait.
Donc n'oubliez pas cette petite gymnastique là. Pas besoin de sortir dans la rue, mais surtout de fermer les yeux, de rester concentré quelques minutes.
Et d'imaginer l'épreuve qui vous attend dans votre tête chaque jour.
C'est clair pour vous, Alioune?
Oui, c'est très bien clair. Mais encore aussi, j'aimerais ajouter une chose parce que ici au Sénégal, les parents ont du mal à gérer la situation eux-mêmes. Parce que à chaque fois, si on est à la veille du baccalauréat ou bien des épreuves du brevet, il existe à leurs enfants d'apprendre convenablement les leçons du jour au lendemain. Alors ça, ce n'est pas du tout normal parce qu'un élève a besoin un moment de repos ou bien un moment de se divertir ou bien
un relatif équilibre. Mais là, vous êtes dans la dernière ligne droite, hein, à Lyon. Donc, il faut quand même
rester concentré jusqu'au bout.
Rester concentré. Bonne chance, très très bonne chance. On pense vraiment à vous, à Lyon, pour le bac, l'épreuve de philo qui semble être votre bête noire le 19 juin. Vous n'êtes pas le seul à Dakar. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Mohamed qui est à Cergy en région parisienne. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes étudiant en France à présent, je crois.
Oui. Et avant, j'étais étudiant en Mauritanie. C'est là-bas que j'ai eu mon bac S en 2009. Et je voudrais vous faire mon témoignage par rapport à la stress. Parce qu'avant de venir en France, j'ai stressé beaucoup. Et maintenant, je stresse moins.
Ah bon?
Oui. Peut-être c'est dû à l'environnement. Je sais pas. Mais je vais vous faire part de mon témoignage. Bon, avant, si j'ai stressé quand même, avant le bac ou le lycée et tout, si j'ai stressé, j'avais quoi comme remède? C'est le sport. Soit c'est de sortir faire un peu du sport. Ou soit c'est d'aller voir des amis, faire un peu quelques débats, parler d'autres choses. Que ça va me faire évacuer le stress un peu. Et après, si je reviens dans ma chambre comme d'habitude, je vais continuer à réviser. Comme ça. J'ai juste un témoignage qui est très important au lendemain du bac. J'ai pas dormi toute la nuit du bac.
Oui.
Toute la nuit. J'ai stressé, j'arrivais pas à dormir. Mais ce stress m'a vraiment boosté, m'a vraiment poussé à bien travailler.
Ouais. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui vous êtes moins stressé? Peut-être parce que aussi vous avez gagné en sagesse, vous êtes plus âgé.
Je dirais ça parce que, mais en licence 3, j'avais 23 ans. Mais je continue à stresser.
Ouais,
mais peut-être c'est par rapport aux parents.
Ouais.
Ils mettaient un peu la pression.
Mais au fil de vos succès aussi, peut-être êtes-vous davantage rassuré, non, Mohamed? Parce qu'apparemment, vous réussissez très bien.
Oui. Peut-être c'est ça, mais je dirais aussi peut-être parce que les parents africains, ils sont toujours derrière les enfants au lieu de les...
Bon, alors là,
vous savez, en France aussi, les parents sont très stressés. Hein.
Mais, mais en France, on est plus autonome.
Ah oui, pareil. La famille est peut-être plus présente en Afrique, plus...
On vous dit, on te paye les études, on te paye le transport, tu dois faire
oui,
ça.
C'est une culpabilisante.
C'est un sacrifice, il y a une exigence et une culpabilité.
Ça peut être un moteur aussi de se dire que finalement, on doit quelque chose à sa famille.
Il y a une très grosse pression dans les familles françaises qui s'exerce autrement.
Exactement, mais la pression, elle est aussi énorme.
Bonne
et
chance.
Je pense que vous êtes moins stressé parce que chaque petite victoire, finalement, renforce votre confiance en vous et vous dit que finalement, puisque vous avez réussi le bac, finalement, eh ben vous avez réussi. Donc après, à chaque fois, finalement, vous allez gagner en confiance en vous et le stress va décroître. Donc chaque petite victoire.
Mohamed, bravo et puis bonne chance pour la suite, pour le master, etc. Merci, très bonne journée en région parisienne. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée, Mohamed. 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Servin qui est à Brazzaville, au Congo Brazza. Bonjour Servin.
Bonjour Emmanuel.
Aïe aïe aïe, Servin, 22 ans et le bac dans 3 jours, avez-vous dit au standard.
Oui, c'est ça.
Alors
je ne suis pas. Je me suis préparé et je suis pressé, non pas parce que je ne me suis pas préparé, mais parce que c'est le nom de la famille qui est pressé maintenant.
Oui.
Ça fait un peu de la peur, là, c'est ça. Je vais avoir un peu de conseils pour que je sois courageux pour affronter ça.
C'est ça, vous êtes stressé, vous ne devriez pas l'être si vous dites je me suis préparé. Vous êtes un bon élève, non, Servin?
Non, mais parce que c'est le bac, vous voyez, pour la première fois. Ouais. Ça fait toujours comme ça, Emmanuel. Ouais.
L'honneur de la famille.
Bah bon. Oui, ce que je disais.
Alors, comment on fait redescendre cette pression-là?
Trois jours des épreuves, moi, il faut vous dire qu'il faut pas lâcher, quoi. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Il faut de se dire qu'entre deux épreuves, on peut aller voir les copains, aller boire des coups, etc. Non. Il faut rester jusqu'au dernier jour des épreuves, complètement concentré sur son objectif, finalement. Réviser même entre deux épreuves, ne pas lâcher, en fait.
Ouais.
Les copains, les soirées, etc. Vous aurez tout le temps de le faire après les épreuves du bac.
Non.
Parfois, c'est okay. Un sujet, un cahier, un cours qu'on a revu 5 minutes avant un oral, et hop, on tombe dessus le jour de l'oral. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut vraiment rester concentré jusqu'à la fin.
Comment tenir
surtout,
à distance, Servin, oui.
Surtout que surtout que le premier jour, c'est les mathématiques. Mais alors, moi, j'ai fait la série. Ah, les mathématiques, c'est quand même une bête noire pour nous. Donc, c'est ça qui me donne un peu le stress. Ouais, c'est ça.
Oui, bien sûr. Mais après les maths, vous aurez peut-être la philo, etc. Mais il faut vraiment réviser entre les épreuves et rester vraiment concentré. Même si vous dites que vous êtes bien préparé, c'est pas la question. Là, il faut vraiment que vous allez à fond et vous restiez concentré sur votre objectif.
Bon, les maths, c'est votre bête noire, mais en principe, si vous êtes en série littéraire, c'est pas le plus fort coefficient.
Non.
Donc il faut relativiser tout en travaillant jusqu'à la dernière minute. Très très bon courage, Servin. On pense très fort à vous, à tous vos amis et évidemment à tous vos camarades. Un conseil également, Sophie de Tarlet, sur l'importance de la routine, même s'il reste d'ailleurs quelques jours.
S'il y avait une chose à retenir dans cette émission, c'est la routine.
Alors qu'est-ce que c'est la routine quand on révise?
C'est le truc magique. Alors c'est la méthode magique. C'est se créer une routine de travail. Par exemple, vous vous dites que vous allez travailler, vous voulez travailler, vous devez travailler 1 heure par jour. Au début, soyez modeste dans vos objectifs, hein, même si ça peut être 20 minutes. Hein, si vous n'arrivez pas à travailler plus. Mais vous vous dites, c'est tous les jours à 18h, je vais travailler une demi-heure de 18h à 18h30 ou de 18h à 19h. Le premier jour, vous aurez peut-être du mal à vous y mettre, vous serez peut-être en train de regarder votre portable, d'aller sur internet, etc., ou d'aller au frigo, d'aller prendre boire un petit verre ou de manger un petit bout de pain. Mais le lendemain, vous dites, vous remettez au travail à 18h. Et là, bizarrement, vous allez vous mettre au travail beaucoup plus facilement. Vous ferez plus les techniques. Je vais ranger ma chambre. On a toujours des choses à faire quand il faut se mettre à travailler. Je vais faire mon ménage, etc. Et le lendemain, ce sera plus efficace. Et le surlendemain, eh ben là, vous allez voir que l'heure, elle sera vraiment travaillée à fond. Vous allez vraiment travailler, etc. Et là, le cerveau va enregistrer que d'abord, il y a une heure de départ, il y a une heure de fin. Et là, il va se mettre au travail, c'est comme un muscle finalement, le cerveau, beaucoup plus facilement. Et toujours garder cette routine. C'est un petit peu, je fais le parallèle par exemple avec le jogging. Au début, on a du mal à se mettre à courir. Si on se dit, je vais courir de 6 à 7 tous les matins par exemple. Première fois, c'est dur hein, de courir de 6 à 7. Et puis au bout d'une semaine, la routine sera prise. Et vous direz, le jour où vous ne courez pas, finalement, vous sentirez mal de ne pas courir. Donc là, instaurer une routine de travail à heure fixe avec une heure de début et une heure de fin. Et c'est ça le principe clé des révisions.
Je voudrais vous livrer le témoignage d'un grand frère, les conseils d'un grand frère, Massamana Dakar. Vous nous direz ce que vous en pensez, Sophie. Le meilleur moyen de moins stresser, c'est de s'y prendre tôt. Pour bien encoder une information, il faut se donner le temps de la lire et de la relire. Lire à voix haute peut aider. Alors, pas tout le monde.
Le jour d'examen, on peut pas tellement lire à
non,
déjà.
Non, mais là, dans les révisions.
Ah, dans les révisions, oui, bien sûr. Il faut, bien sûr, c'est comme un acteur de théâtre qui doit apprendre une pièce. Si on le lit à voix haute, si même on fait des gestes en même temps, souvent pour moi, je fais du théâtre et par exemple mon prof de théâtre, il me dit souvent, pendant que tu apprends ton texte, Sophie, essaye de faire des pompes,
oui,
par exemple.
Le corps aide à mémoriser aussi.
Exactement. Hein. Il y a une mémoire du geste qui est très importante. Donc souvent, j'apprends mes textes en faisant des pompes ou en faisant des exercices abdominaux et ça m'aide beaucoup à réviser.
Voilà, et puis éviter de passer des nuits vierges, nous dit Massaman, faire le maximum dans la journée, éviter des émotions négatives qui pourraient détourner notre attention, dormir la nuit et faire du sport. Voilà, ça c'est
le sommeil, c'est le premier médicament pour la mémoire, je le rappelle.
Ça permet de reconstruire la capacité à mémoriser ensuite pour la journée suivante. Merci beaucoup Sophie de Tarlet. Il y a beaucoup de conseils à retrouver sur le site de l'étudiant.fr et un rendez-vous à donner pour tous les voisins et les voisines qui nous écoutent.
Alors
également,
mercredi soir à 18h.
Mercredi prochain,
je fais un chat donc moi-même sur le site de l'étudiant, l'étudiant.fr, avec Steven Horn qui est un formateur de chez Dell Carnegie, donc qui est un organisme de formation spécialisé dans la gestion du stress, la prise
donc
de parole.
Donc on peut vous
public.
Poser vos questions en direct en se connectant sur le
les
site.
Les auditeurs, enfin les internautes pourront poser leurs questions en direct à moi-même
ça
et à cet expert.
Ça sera affiché sur le site d'accueil de l'étudiant.fr.
Bien sûr, tout à fait, c'est très simple, il suffit de se connecter, vous posez vos questions et on y répondra pendant environ une heure.
Et sur le sujet qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire gérer
son stress aux examens.
Merci infiniment Sophie de Tarlet. Dans quelques instants, nous parlons de la recherche en sciences sociales en Afrique.
Faudrait que je me bouge, mais de toute manière, il n'y a plus d'heure. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Il y a le pote condamné qui sortira en douce, le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple, je les appelle tous. Comme d'hab, on sort en ville, besoin d'air libre. Notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On klaxonne dans des touristes, me demande où passer la nuit. Comme d'hab, on veut aller au ciné, car l'heure défile. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. Toujours les mêmes tubes à la radio, et tout le monde écoute. Une belle bande de bras cassés, mais au moins on serre les coudes. On est bien sur notre banc, rien faire c'est épuisant. Comme d'hab, ça part en débat, je te jure Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote maigrit, on veut se taper. Il se pense musclé, comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Tire des gueules d'enterrement, on kiffe notre vie. Comme ça, promis on fera notre compact. Pour l'instant on profite d'Arambille entre amis.
Attends, comme ça, soirée de merde, nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la merde.
On ferait la merde, c'est sûr.
Comme d'hab, comme d'hab,
comme d'hab.
Attends, nos soirées de merde,
nos soirées de merde.
Nos embrouilles, nos galères.
D'hab, Big Flo et Oli chez 7 milliards de voisins sur RFI. Dans quelques jours seront réunis des chercheurs en sciences sociales de toute l'Afrique et au-delà d'ailleurs à Dakar à l'occasion de l'Assemblée Générale du CODESRIA. C'est un organisme panafricain de recherche en sciences sociales qui met vraiment en réseau les chercheurs pour faire avancer la recherche en sciences sociales. Et nous sommes en ligne avec le professeur Aminata Diao Cissé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe en charge de la formation des jeunes chercheurs au CODESRIA. D'ailleurs, vous avez fait toute votre carrière à l'université Charanta Diop. Sur quoi vont travailler là début juin les chercheurs au cours des conférences et des ateliers du CODESRIA à Dakar?
Alors, pour cette 14e Assemblée Générale, nous allons réfléchir sur la question « Créer l'Afrique de demain dans un contexte de transformation mondialisée ». Nous allons nous interroger sur les enjeux et les perspectives d'une telle thématique. Et il y a plus de 300 chercheurs qui vont se réunir, venant de l'Afrique, mais aussi de la diaspora, et notre collègue d'Europe, d'Asie et d'Amérique.
Un focus donc sur le futur de l'Afrique, comment l'Afrique pense créer son futur avec évidemment une population très jeune. C'est un peu large hein, comme sujet.
Oui, c'est un peu large, mais je crois que c'est extrêmement important de réfléchir sur une telle problématique parce que très souvent, nous avons plutôt travaillé sur le passé de l'Afrique, sur les traditions africaines. Mmh. Disons que c'est un lieu commun de la pensée, alors que là, l'objectif, c'est résolument d'avoir une vision prospective, mais aussi très déterminée par rapport à un futur à penser et à construire. Et je crois que c'est un changement paradigmatique qui est important.
Mmh. Et par les chercheurs africains eux-mêmes?
Par les chercheurs africains eux-mêmes. Parce que là encore, aujourd'hui, tout le monde dit que les choses se passent en Afrique, que les choses se décident à partir de l'Afrique. Mais il est important que les chercheurs africains en premier se déterminent par rapport à ce futur du monde et donc ce futur de l'Afrique.
Le monde entier, Aminata Diao Cissé, regarde vers l'Afrique depuis quelques années, vers ses crises politiques, il faut bien le dire, mais aussi vers sa croissance économique et puis la nécessité d'apporter de la technologie. Alors, dans un tel contexte, on se pose forcément la question à quoi peuvent bien servir les sciences sociales?
À beaucoup de choses, parce que c'est vrai que nos sociétés sont devenues de plus en plus dépendantes par rapport à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est science de l'ingénierie, à tout ce qui est mathématiques. Mais il y a un élément qui reste important, c'est l'humain, c'est l'homme et la femme qui sont au cœur du développement des sociétés. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est vrai pour l'Afrique, mais c'est vrai, je crois, pour la société globale. Nous nous rendons compte que nous faisons face à des problèmes auxquels nous devons trouver une solution, à savoir le changement climatique, les questions d'environnement, les questions d'inégalité croissante dans les sociétés qui remettent en cause la stabilité de ces sociétés. Et de telles questions, il est vrai, ne peuvent être prises en charge que par les sciences sociales. Et je crois aussi que les sciences sociales ont un rôle primordial qui est de former des citoyens actifs, des citoyens critiques, des citoyens qui sont aussi capables de résister à toute forme d'autoritarisme, à toute forme de pression et de réfléchir librement par rapport à leur propre avenir, par rapport aussi à leur présent. Et pour cette raison, je crois que les sciences humaines et sociales sont plus que jamais nécessaires. Aujourd'hui, les grands problèmes auxquels le monde est confronté, et l'Afrique particulièrement, doivent être pris en charge et ne peuvent être pris en charge que par les sciences humaines et sociales. Je ne dis pas que c'est la seule clé, la clé exclusive, mais le rôle des sciences sociales est ici au cœur de la problématique. Et je voudrais aussi peut-être très rapidement rappeler un superbe texte d'une philosophe américaine, Martha Nussbaum, qui montre justement comment il nous faut revenir à ces humanités, comment il nous faut revenir à ces sciences sociales, parce que c'est ce qui permet de développer chez l'être humain la capacité d'empathie, de se mettre à la place des autres. Et dans des sociétés qui sont ravagées par les questions d'inégalité, je pense que c'est quelque chose d'important.
Donc, Assemblée Générale du Codesria et colloque scientifique, du 8 au 12 juin, plus de 300 chercheurs réunis. Il y aura des grands philosophes, des sociologues, des géographes. On ne peut pas citer toutes les disciplines. Merci infiniment de nous avoir exposé ce programme, professeur Aminata Diao-Sissé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous, les voisins, les voisines. Vous le savez, du lundi au vendredi, c'est aussi beaucoup vous qui faites l'émission. Et à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Jonas Malé-Solars, Didier Cherouz, Romain Dubrac. On se retrouve bien sûr lundi pour 7 milliards de voisins avec notre partenaire le magazine Brune. Toutes les tendances de la mode dans vos villes et sur le continent africain. Dans quelques secondes, le journal sur RFI.